10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam présent sur Beurre FM tous les samedis, une heure pour parler d'islam en direct. Alors j'ai un problème avec mon... je sais pas ce que c'est mon casque ou mon...
Ton micro, casque, ouais, d'accord. Tu veux le mien?
Non,
voilà. Moi c'est facultatif. Pas.
Ah bon, non, mettez votre casque.
Bon, c'est pas important, mais c'est vrai que je m'entends mieux, c'est plus agréable.
C'est mieux, hein.
C'est très confortable de mettre un casque sur les oreilles.
L'imam Abdelhadi,
puis ça fait, tu vois, ça fait...
Non, Ziyab, ça fait quoi?
Ça fait classe, quoi. Ça fait, tu vois,
classe.
Style le gars, ouais.
C'est Zama, le gars, il a un casque,
Zama,
il est classe.
Zama, il a un casque et tout, t'as vu?
Ah ouais, tiens. Bon, l'imam est casqué ce matin, vous avez l'image hein, sur votre transistor. Si vous avez encore des transistors, on parle d'islam pendant une heure sur Beurre FM. Et nous allons parler de la quête du savoir en islam, Imam Abdelhadi.
Alors oui, effectivement, comme on a prévu, donc convenu de la schématique de notre émission, d'évoquer une vertu prophétique, vous allez me dire, mais comment ça peut être une vertu prophétique? Comment un illettré, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit en arabe « ummi », alors le mot « ummi », ça veut dire « illettré », dans un verset du Coran, Dieu, il dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Celui qui a envoyé parmi vous, parmi les illettrés, un personnage, c'est-à-dire une personne comme vous. رسولا, un prophète parmi vous, un messager parmi vous. يتلو عليه آياته, qui est, malgré illettré, capable de réciter, les versets de Dieu qu'il a reçu sur vous, alaykum ayatihi wa yuzakkihim, et il est capable de réaliser la purification de leur âme et de leur cœur, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, et il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc on a bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la mission. Il précise quelle est la mission du prophète, un homme illettré qui est là pour enseigner, transmettre du savoir, permettre aux gens d'acquérir le savoir. Et pas simplement d'acquérir le savoir, mais même l'amour d'acquérir le savoir, l'envie d'acquérir le savoir. C'est un prophète qui dit que on ne peut parler d'adoration si on ne parle pas d'abord de savoir. Car, comme le dit la fameuse règle dogmatique, Inna Allah la yu'badu an jahl. Dieu ne peut pas être adoré par ignorance. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ignore. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ignore avec des moyens qu'on ignore et avec la manière qu'on ignore. Donc on doit réaliser notre raison dans ce bas monde qui est l'adoration de Dieu, mais avec la manière que Dieu nous l'a enseigné. Et bien entendu, réaliser les objectifs qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous dans son bas monde. Quand il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est quoi l'adoration? C'est réaliser l'ordre établi, le califat sur terre. Quand je dis le califat, c'est l'ordre, la civilisation, la société où un ordre est établi, où on empêche le chaos et la loi de la jungle de s'imposer. C'est ça ce qu'on appelle le califat. Il faut vraiment que les gens sortent de leur esprit ce mot qui fait peur, parce que quand on dit califat, on pense tout de suite à Abou Bakr Baghdadi, on pense tout de suite à Daesh, on pense tout de suite à Al-Qaïda ou bien je ne sais quoi, Ben Laden. C'est du n'importe quoi. Le texte coranique qui parle de khalifa, c'est un texte, c'est un mot coranique, eh bien, n'a rien à voir avec ce qu'on lui a donné comme signification. On parle de khilafa, qui signifie imposer l'ordre établi. Faire en sorte que le faible ne soit pas tué ou ne soit pas anéanti par le fort, comme ça se passe dans la jungle. La jungle, les animaux féroces tuent les animaux faibles. Eh bien, le monde des humains ne doit pas être géré par cette manière de vivre, c'est l'ordre établi. Donc la science est donc un moyen d'arriver à cela, et celui qui est valorisé, à qui on va même accorder ce pouvoir, c'est celui qui aura le savoir. Quelqu'un qui aura des connaissances, quelqu'un qui aura par exemple un doctorat, un master, des connaissances, bref, une expertise, une compétence, c'est à lui à qui on va confier la tâche de son expertise. C'est exactement cet ordre établi qu'on appelle la khilafa, que Allah Azza wa Jalla souhaite imposer dans ce bas monde. Et plus vous avez la compétence pour assumer une fonction, et plus vous la méritez. Que si vous la confiez de manière corrompue, avec des moyens par exemple, de l'argent ou en utilisant par exemple, la mafia ou est-ce qu'on va intimider les gens, etc., pour obtenir des... Eh bien, là, on tombe dans le chaos, on tombe dans le désordre que Dieu condamne et dénonce. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans un ordre établi, on est dans le désordre qui dessert les intérêts. Ça me rappelle une fois une histoire que j'avais vue sur Internet où on voyait un professeur de médecine un jour qui, au moment de passage d'examen, dans la feuille d'examen, eh bien, il y a une liasse de billets. Une liasse de billets d'un élève qui met une liasse de billets de la part de son père, bref. Et il met une grosse... Et bien entendu, il attend du professeur que... Il lui donne une note, bonne note, c'est-à-dire qu'il lui permette de réussir l'examen, alors qu'il ne le méritait pas. Il méritait d'échouer et de refaire sans son année. Mais parce qu'il était cupide, parce qu'il était motivé par l'argent, le professeur de médecine va accorder son diplôme de médecine à cette jeune fille qui va corrompre le professeur. Plus tard, il est à la retraite, il a un enfant, ce professeur, qui fait un accident de voiture et qui, malheureusement, cet enfant arrive sur la table de l'opération. Et l'opération échoue. Et au moment où est-ce que le chirurgien dévoile le masque qu'il avait sur le visage, vous savez, les chirurgiens, ils ont des masques, le père est stupéfait de voir que c'est elle, cette fille à qui il a accepté le pot de vin pour lui permettre de réussir. Et c'est lui qui est aujourd'hui le premier à en subir des conséquences. Donc c'est très très important que nous ayons une société qui valorise le savoir, qui l'encourage, qui le soutient et qui met en place tous les moyens pour justement transmettre ce savoir et voire même le développer par la recherche scientifique, etc., etc. Le Coran nous le dit. Il dit que c'est en plus un moyen d'élévation spirituelle. Il dit même que ceux qui s'élèvent vraiment vers Dieu, ceux qui ont la foi authentique, ce sont les savants. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent véritablement Dieu, ce sont les savants. Il dit dans un autre verset, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Dieu élève parmi vous les croyants. Walladhina utul ilma darajat. Ainsi que ceux qui ont le savoir des degrés. Des degrés, on ne parle pas seulement de degrés au paradis, de degrés eschatologiques dans l'au-delà, au paradis, etc. On parle des degrés dans ce bas monde. Ce sont les gens qui ont le savoir, qui sont respectés, qui sont considérés, qui doivent ensuite à qui on doit confier les fonctions qui correspondent à leurs compétences. Et c'est ce qu'aujourd'hui réalise la société occidentale, française en particulier, et nous ne pouvons que nous féliciter finalement que l'islam, c'est elle est mieux appliquée en France que dans n'importe quel pays arabe. C'est le constat. Là-bas, c'est le piston. Ici, c'est la compétence. C'est le savoir. C'est la connaissance. T'as le diplôme, t'as les compétences. Tu as le poste, tu ne l'as pas, tu peux pas. Même si ton père, il est général, ou il est ministre, ou il est je ne sais quel poste, tu ne peux pas obtenir la fonction si tu n'as pas les compétences. C'est primordial. À tel point que le prophète qui a transmis ça à ses compagnons, qui eux-mêmes après vont le transmettre, on verra que l'islam va être va avoir une période civilisationnelle qui va illuminer le monde entier. L'Andalousie va éclairer l'Occident pour faire passer la société occidentale du Moyen-Âge, cette période féodale extrêmement obscure du monde occidental, au siècle des Lumières, au siècle de la Renaissance, au siècle du savoir, au siècle de la modernité. C'est cette science européenne, musulmane, d'Andalousie qui va permettre de réaliser ça grâce à cette transmission du savoir, la géographie, l'astronomie, la médecine, j'en passe et des meilleurs. Personne ne pourra contredire cette réalité-là, elle est véridique. Et c'est ce que, à la base, les compagnons vont recevoir du prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je citerai qu'une petite anecdote pour illustrer l'importance de ce savoir. Qais ibn Kathir, un tabi'i, un successeur des compagnons, raconte qu'un jour, un homme est venu de Médine, un homme est venu à Damas de Médine. Médine à Damas, il y a 2000 kilomètres, Philippe. Il est venu chez un compagnon qui s'appelle Abu Darda, c'est un compagnon de prophète. Il avait entendu parler, cet homme de Médine, que Abu Darda détenait une citation du prophète, ce qu'on appelle un hadith, un seul hadith. Faqala ma aqdamaka ya akhi. Abu Darda lui dit à cet homme, qu'est-ce qui t'a fait venir de Médine jusqu'ici? 2000 kilomètres, t'es venu me voir. فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une parole du prophète que j'ai entendu que tu transmets de la bouche du prophète عليه الصلاة والسلام que tu as entendu. Puisque Abu Darda est un compagnon du prophète. قال ما جئت لحاجة. Est-ce que tu es venu que pour ça? Il n'y a pas une autre raison, commerce, voir la famille, je ne sais pas moi. Tu es venu que pour ça? Il a dit non, 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 je suis venu pour rien, non. قال أما قدمت للتجارة. Il n'y a pas une raison commerciale, faire une transaction, je ne sais pas, gagner un peu d'argent. Ce qui t'a motivé de faire ces 2000 km. قال لا, non, ni commerce, ni besoin, ni rien du tout. قال أما جئت إلا في طلب هذا الحديث. Tu n'es venu que pour ce hadith, que pour ça. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, car j'ai entendu le prophète dire, من سلك طريقا. Et là, il va recevoir plusieurs hadiths. En fin de compte, il va profiter du savoir de Abu Darda. Abu Darda va lui dire, le prophète m'a dit que celui qui suit un chemin dans lequel il cherche à acquérir le savoir, يبتغي فيه علما, il cherche à acquérir un savoir, سلك الله به طريقا إلى الجنة, il lui donnera le jour de la résurrection un chemin vers le paradis. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. Les anges couvrent ceux qui cherchent le savoir avec leurs ailes par bénédiction, par agrément de ce qu'ils font quant à leur quête du savoir. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. Le savant fait l'objet de demandes de pardon. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre demande pardon à Dieu pour le savant, pour le savoir qu'il transmet aux autres. Et il dit, le prophète, il va plus loin dans son... Il dit, حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْمَا. Jusqu'à même les poissons dans l'eau, les baleines dans l'eau, vont même demander pardon à Dieu pour récompenser le savant de son savoir et du savoir qu'il transmet. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. L'avantage qu'a le savant sur l'adorateur, imagine l'adorateur quand même c'est quelqu'un de bien, il est adorateur, il adore Dieu, etc. Et bien il dit que le savant est meilleur que l'adorateur. Et bien la différence entre les deux, c'est comme la lumière de la lune en pleine lune, de pleine lune, une nuit de pleine lune, par rapport aux étoiles, par rapport aux étoiles qui sont dont la lumière scintille de manière très petite. Il dit وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Ensuite, il dit, إِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا. Sachez que les savants sont les héritiers des prophètes. إِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Les prophètes, certes, n'ont légué d'héritage ni argent, ni dinar et ni dirham. إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمِ. Ils ont transmis et hérité, légué le savoir. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ. Celui qui acquiert ce savoir aura forcément hérité d'une grande part de cet héritage prophétique. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi qui est authentique et qui montre bien que, sachez que ça, je m'adresse à tous les enfants, à tous les étudiants, à tous ceux qui lisent, à tous ceux qui s'instruisent, qui ouvrent un ordinateur pour chercher un article, pour lire et s'instruire de ce qui se passe. Pas simplement le savoir sacré de la religion ou le Coran. Toutes les connaissances sont utiles. Par contre, il faut que ça soit une connaissance qui ne soit pas fausse, qui soit vraie. Ces connaissances qui ne servent à rien, telles que les romans, tout ça, l'islam, même s'il considère qu'il y a une connaissance littéraire derrière la lecture des romans, il y a quand même une limite, parce qu'elle confond la vérité avec le mensonge, avec l'imagination humaine. Donc il est très important que, si vous devez lire de la littérature, autant faire d'une pierre deux coups, en à la fois profitant de la littérature de l'histoire, mais en même temps de la vérité des connaissances que vous lirez en lisant des livres d'histoire, mieux que de lire des romans. Ça, c'est un conseil d'imam. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord.
Ça, c'est un conseil d'imam.
Voilà, c'est le conseil de l'imam qui dit...
De l'imam. Lisez, ça se discute.
Lisez plutôt. J'interdis pas de
lire... On peut lire les deux.
Oui, on peut lire les deux.
Un bon roman...
Oui,
de science-fiction.
C'est pour ça que j'interdis même pas les gens à regarder des films qui sont des fictions. Ah. Qui sont des fictions. Par exemple, quand on voit Malik Bentala, qui est non pas lui, la fiction, mais la réalité, et que c'est l'autre qui est la fiction. Donc c'est vrai
que
on a tendance à se poser des questions. Est-ce que c'est Malik la fiction ou c'est l'autre qui est la réalité?
Un bon film de Noël avec le Père Noël.
Voilà, tout ça, on pourrait s'en passer.
Un dimanche sous la couette, Imam Abdelali.
Hein? Sous la couette.
Ouais. Petit film de Noël.
Je sais pas comment t'arrives à lire dans le noir sous la couette, toi.
Non, je vous dis le
avec la lampe. Avec la lampe de chevet.
Le téléfilm de Noël.
Ah, le téléfilm de Noël. Ah oui, donc tu le regardes avec le portable.
Voilà, Metserran, il regarde tous les dimanches.
Tous les dimanches,
il regarde un petit film de Noël. Le film de Noël,
ouais. Ah, ok, très bien. Ça fait pleurer à la fin, tout le temps.
Alors, ça fait pleurer.
Il y a des, dénouements qui sont... Oh là là.
Bon.
Tristouné.
Bien, un rappel très de émotionnel. L'imam Abdelali Mamoun, vous savez...
L'important, c'est le savoir, c'est très très important. Je vous dis franchement, vous ne regretterez jamais, jamais de lire, lisez, acquérir le savoir, voire même s'il faut mémoriser parfois des poésies, tout ça, c'est très très bien, ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire. C'est aujourd'hui la tare de notamment nos co-religionnaires, c'est de ne pas suffisamment lire.
Bien. Et en attendant, vous pouvez aussi écouter la radio et écouter Beurre FM. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun, c'est en direct jusqu'à 11h sur Beurre FM. Alors chaque semaine, un nouvel épisode de la vie du prophète, imam Abdelali. Alors on a commencé à voir les débuts de la révélation la semaine dernière. Et d'ailleurs, dès le début de la révélation, imam Abdelali, les notables de Quraysh réfutent cette nouvelle religion. Alors pourquoi et qui en seront les premières victimes?
Alors, bien entendu, Quraysh, dès qu'ils apprennent que parmi eux, un homme qui fait partie de la grande tribu de Quraysh, donc qui est un notable, lui-même, le prophète Mohammed est un notable, c'est pas un... Alors, d'abord, il faut quand même qu'on explique à nos auditeurs, auditrices de Beurre FM, la typologie sociologique de la population de Mecca. Mecca, il y a trois catégories d'individus. Vous avez d'abord les citoyens... de races ou de tribus arabes, celles qui sont la tribu des Bani Kinana ou même d'autres tribus, mais qui sont des tribus mécoises, qu'on appelle en arabe Quraysh. Tout le monde connaît cette expression, puisqu'il y a même une sourate qui porte ce nom-là, les Ila fi Quraysh, Ila fi Imrahilat Ashita, tout le monde connaît cette petite sourate qui parle de ces habitants de la Mecque qu'on appelle Quraysh. Donc vous avez d'abord les notables, les gens qui sont issus d'une famille notable et qui sont protégés justement par ce statut de citoyen. C'est un petit peu le statut de super citoyen qui fait qu'ils sont protégés et personne ne peut porter atteinte ni à leur dignité, ni à leur argent, ni à leur intégrité physique, ni à rien du tout parce que ils savent que derrière il y a une tribu qui les protège. C'est un peu le système tribal. Il n'y a pas un état qu'on appelle l'ordre établi avec une autorité, avec un service de l'ordre, avec une gouvernance, etc. À l'époque, il n'y a ni gouvernance, ni rien. Personne ne peut prétendre qu'il est le chef de la Mecque. Il n'y a pas de chef de la Mecque à l'époque. Il y a des tribus qui cohabitent et qui s'entraident et qui respectent un code. Bon, notamment, là, en l'occurrence, c'est parmi les codes qui ont été mis en place, c'est celui quand le prophète avait 20 ans, qu'on appelle Hilf al-Fudul, qui est un accord entre les Mécois, qui consiste à la fois respecter les Mécois les uns les autres, mais aussi respecter leur hôte, c'est-à-dire les gens qui viennent accomplir le pèlerinage, de manière à ne pas discréditer l'image de la Mecque et décourager les touristes, parce que leur intérêt, c'est surtout financier. Il faut pas décourager les touristes religieux, entre guillemets, qui viennent à la Mecque, on parle de avant l'avènement de Mohammed.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Ouais.
On parle déjà, la Mecque est déjà un lieu de pèlerinage. Et donc, pourquoi? Parce que certains avaient, comme par exemple, Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, le père de Amr ibn al-As, avait tout simplement décidé de spolier, de racketter un commerçant yéménite de Al-Boujali, une personne de la tribu des Al-Boujaliya, et qui s'est plaint en criant de la montagne, mais qu'est-ce que c'est que ces habitants de la Mecque qui se croient tout permis, qui prennent les biens des gens. Et puis aussi cette histoire qui a provoqué ce Hilf al-Fudul, où une femme de Qais, de la tribu de Qais, avait été profanée par des habitants de la Mecque et qui avait été, on va dire, son honneur avait été entaché, on lui avait arraché sa robe et tout le monde avait vu entre autres ses parties postérieures, etc. Bref, et elle avait été humiliée. Ça avait. Donc tout cela, ce cumul d'incidents commis par les Mécois, mais aussi il y avait en profondeur déjà du trafic d'alcool, de la prostitution. Les Mécois étaient spécialistes dans ce qu'on appelle aussi le trafic d'êtres humains, le commerce d'êtres humains d'esclavage. Donc toutes ces choses-là que les Arabes savaient que c'était, il y avait une forme d'immoralité dans tout ça. C'est pas correct. C'est pas normal que quelqu'un il arrive faire un pèlerinage à la Mecque, que le soir on lui propose une femme moyennant finance. Et donc la prostitution, le proxénétisme, tout ça était pratiqué de manière notoire à la Mecque, et tout cela va être régulé lors du Hilf al-Fudul, ce qu'on appelle l'accord où le prophète il a 20 ans et il en fera partie, et cela va être organisé par l'oncle de Abu Bakr, qui s'appelle Abdullah ibn, ça va me revenir tout à l'heure son nom de famille, le fils de Abdullah ibn, donc c'est un Taymi, de la tribu des Taym, ça va me revenir. En tout cas, c'est l'oncle de Abu Bakr qui va s'illustrer pour justement imposer cet accord entre les Mécois. Et donc, à la Mecque, vous avez des citoyens notables qui sont Quraysh. Vous avez en deuxième catégorie les Mawali. Qu'est-ce que c'est que les Mawali? Ce sont des hommes libres qui n'ont pas le statut d'esclave, qui ne sont pas la propriété d'autres individus, mais qui sont protégés par une tribu. On dit Maoula Abi Fulan, Maoula Kada. Par exemple, Salim Maoula Abi Hudayfa. Salim était une tribu étrangère à la Mecque. Et Abu Hudayfa est un Mécois, lui aussi notable, qui va protéger Salim, qui va devenir son sous sa tutelle. Un autre que je vais donner comme exemple, qui va justement illustrer aussi la persécution, c'est Ammar ibn Yasser. Yasser, qui est un Ansi de la tribu des Yéménites, va être sous la tutelle des Bani Makhzoum, de la tribu de Al-Mughira, Al-Walid ibn Al-Mughira, qui va persécuter Ammar. Al-Walid ibn Al-Mughira va même torturer Ammar. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne viendra défendre Ammar, parce qu'il est, il est sous la tutelle de la tribu des Bani Makhzoum, donc de celui qui est son... comment on dit? Celui qui le... C'est de son bourreau, quoi. Qui le persécute, qui le torture, et qui va même le torturer. Donc c'est un maoula, mais pas un esclave. Et la troisième et la pire des trois catégories, c'est les esclaves, ce qu'on appelle l'abid, ceux qui sont la propriété, comme Bilal ibn Rabah, comme Amir ibn Fuhayra, comme Khabbab ibn al-Arat, etc. Et d'autres compagnons qui sont Soumaya, par exemple la mère de Ammar ibn Yasser, qui vont carrément tout simplement se faire tuer, se faire assassiner par leur maître, parce que tout simplement ils auront choisi la religion de l'islam. Donc ce sont la situation, on va dire, sociologique, qui fait que certains notables qui sont en situation d'une forme de caste, donc il y a une caste, si tu veux, une caste mécoise, où les notables mécois, non musulmans et mouchriques, et qui profitent de ce business malsain, de cette activité qui est très lucrative, qu'est la prostitution, la vente de l'alcool et tout ce qui est malsain, les jeux de hasard, donc tout ça, la sorcellerie, et tout ce qui pouvait être source de business mafieux, eh bien, ce sont bien entendu eux qui refusent l'adhésion à l'islam, puisque l'islam va leur dire stop, vous pouvez pas pratiquer ce genre de choses. Toutes ces choses-là sont détestables, Dieu n'aime pas cela. Donc vous pouvez pas continuer à profiter et à abuser des pèlerins qui vous rendent visite et vous profiter de votre prédominance, parce que vous avez le monopole de la Kaaba, qui est le sanctuaire de toutes les tribus arabes. Même Dieu le rappelle, même dans la petite sourate, l'ilah fi Quraysh, l'ilah fi marhalat ash-shita wa as-sayf, pour que Quraysh prenne l'habitude de voyager en été, en hiver, en toute sécurité. Que les Quraysh, pour cette raison-là, adorent le Seigneur de la Kaaba, de la maison. Falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min jou', qui a comblé leurs besoins en nourriture, wa amanahum min khawf, et leur a garanti une sécurité qui grâce à la Kaaba, eh bien, leur donne une immunité, empêchant toute personne de les nuire. Donc cette semaine, ce rappel du bienfait que Dieu a comblé Quraysh, Dieu va le rappeler aux Mécois. Mais cela ne va pas empêcher les Mécois de s'en prendre à ces nouveaux convertis, parce que ce sont les plus fragiles, et ils vont subir une énorme persécution. À tel point, par exemple, que Bilal, hein, tout le monde connaît l'histoire de Bilal, son propriétaire, Oumayya ibn Khalaf, va lui mettre un rocher sur le ventre, il va le fouetter à mort au soleil, il va le laisser cuire au soleil avec un rocher énorme sur le ventre, en l'obligeant, en lui demandant de renier sa foi. Mais il n'aura d'autre mot dans la bouche, Bilal, que de dire seul, il est unique, ahad, 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 Ahad. C'est la seule phrase que Bilal va répéter tout au long de sa torture, de sa persécution. Bilal n'aura d'autres mots dans la bouche que Ahad, Ahad. D'autres compagnons comme Ammar, il va être torturé tel point que le feu qui va le brûler va, sa chair, la graisse de sa peau va éteindre le feu qui va, la graisse va fondre, va se transformer, va se liquéfier et va fondre sur le feu qui va éteindre le feu tellement il est torturé par la famille de Al-Mughira, de Walid ibn Mughira, de la tribu des Bani Makhzoum, va torturer Ammar ibn Yasser. Et là, le prophète va passer à chaque fois à côté de la famille de Ammar et va leur dire Sabran ala Yasser, patience aux familles de Yasser, fa inna maw'idakum al-jannah, car notre rendez-vous c'est le paradis. Donc voilà, cette leçon que l'on reçoit, à tel point que même les compagnons à la fin ont dit, ya Rasulallah, est-ce que tu peux pas faire en sorte que l'on soit sauvé de toutes ces persécutions? Dieu ne peut-il pas nous envoyer des soldats, des êtres surnaturels pour nous protéger contre cette persécution? Et là, le prophète leur rappellera, leur dira, avant vous, des gens étaient coupés en morceaux, en deux, avec une scie. Ils étaient coupés en deux avec une scie, et cela ne les empêchait pas de ne les poussait pas à renier leur foi. Cela ne les empêchait pas de s'accrocher à leur conviction. Et donc c'est une leçon que l'on reçoit de ces hommes-là, une leçon énorme, en même temps un sacrifice que l'on doit leur reconnaître. Et donc pour cela ils méritent nos prières, nos duas d'agrément. À chaque fois que l'on cite le nom d'un compagnon, on ne peut pas dire que Dieu lui accorde sa miséricorde, comme on le ferait avec le commun des croyants. Le commun des croyants, Philippe, on dit Rahimahullah quand il meurt, Rahimahullah, que Dieu le comble de sa miséricorde. Alors qu'un compagnon du prophète qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié, qui a été persécuté, qui a même été obligé de quitter sa demeure pour aller plus tard à Al-Habasha, on en parlera justement de ses voyages d'immigration en Éthiopie, en Érythrée, Al-Habasha, tout ça parce que ils ont donné leur vie à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien pour ces hommes-là, le mérite, le premier mérite qu'ils ont vis-à-vis de tous les croyants jusqu'à la fin des temps, c'est que quand on cite l'un d'entre eux, quand on dit par exemple Ammar ibn Yasser, quand on dit Bilal ibn Rabah, quand on dit par exemple Al-Khabbab ibn al-Arat, quand on dit quand on cite par exemple énormément de compagnons Mus'ab ibn Umayr, Suhayb ibn Sinan, etc. Tous ces compagnons là quand on cite leur nom, la seule formule que l'on doit avoir à la bouche c'est radiyallahu anhum, c'est-à-dire que Dieu leur accorde sa satisfaction et son agrément. Radiyallahu anhum ajma'in. Enfin, Dieu même lui-même va dire laqad radiyallahu anil mu'minin. Dieu a agréé tous les croyants qui ont signé le pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Bien, Imam Adel Ali, dans un instant, comme chaque semaine, vous répondrez à une question d'enfant et c'est l'islam.
Puis on pourra prendre aussi quelques auditeurs, non, Philippe?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est magnifique.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais on peut pas si tu donnes pas le numéro de la radio, Philippe.
Parce que les auditeurs connaissent pas le numéro de la radio.
Bah, et ça serait bien de le rappeler.
Voilà, 01 53 48 3000. Mais comme on est pris par le temps, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et chaque semaine, Imam Abdelali vous répondait à une question d'enfant, et c'est vrai que les enfants ont l'art de poser des questions qui mettent en difficulté les adultes.
Oui, si on n'a pas le savoir.
Si on n'a pas le savoir et la méthodologie pour répondre aux enfants.
C'est pour ça qu'on est là à la radio, pour donner les moyens, ce qu'on appelle des éléments de langage à tous ces parents qui parfois sont embarrassés par leurs enfants qui viennent de l'école avec des connaissances dont les parents ne sont pas préparés à gérer et concilier avec leurs convictions.
Bon, alors est-ce que le Coran, Imam Abdelali, parle des dinosaures?
Bah non, bien sûr que non, le Coran n'a jamais parlé de dinosaures. Bien sûr, la question qui va se poser c'est pourquoi, sachant que les dinosaures ont vécu des millions d'années sur Terre. Et alors il y en a, ils vont dire bah tout simplement parce que c'est faux, c'est une conspiration, les gens ont inventé ce truc là pour qu'on n'en croit pas en Dieu et Adam et Ève, etc., et que le monde a existé bien avant toutes les religions, et que finalement tous ces prétendants aux religions sont dans le faux parce que la science, l'archéologie, c'est ça, Philippe, qu'on appelle ça? C'est de l'archéologie?
Non, l'archéologie, c'est vraiment ça, non?
mais l'archéologie, c'est-à-dire la science qui permet de découvrir les ossements, les couches géologiques.
Oui, effectivement.
Ce sont les archéologues, ouais. On est bien d'accord. Donc l'archéologie n'est pas incompatible avec la foi et la théologie, qui est donc le monothéisme des religions, de la religion qu'on appelle la religion de l'islam, celle de Moïse, d'Abraham, de tous les prophètes, qui a été parachevée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout simplement parce que le Coran, s'il ne parle pas de préhistoire, parce que là on parle de la préhistoire,
oui, oui. Hein,
tout simplement parce que d'abord ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas en soi déjà un livre d'histoire, même s'il y a des histoires dans le Coran. Il y a à travers les histoires que Dieu nous relate un signe et un rappel. Mais ce n'est pas la finalité. Le livre n'est pas, le Coran n'est pas un livre d'histoire, donc encore moins un livre de préhistoire. Le Coran n'a que pour mission que de rappeler l'homme, un dhikr, c'est un rappel que Dieu fait à l'homme pour qu'il n'oublie pas et puis en même temps c'est un guide, c'est un code, c'est une manière de savoir comment utiliser ce corps qui peut être autant destructeur que constructeur. Donc ce Coran il a d'abord pour mission d'orienter l'homme vers son bonheur, le bonheur de l'humanité, le bonheur de toutes les créatures, en instaurant cet ordre établi, en protégeant les plus faibles. Il est là pour d'abord jouer ce rôle-là. Et bien entendu, il est là aussi pour expliquer aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment réaliser les valeurs universelles, les valeurs religieuses qu'il prône. Le Coran n'évoque pas les dinosaures, c'est certain, et donc c'est à nous d'expliquer aux enfants que Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est, il nous dit de chercher le savoir. Ce savoir, tout n'est pas dans le Coran. Le Coran n'est qu'un panneau, ce n'est pas le bout du doigt, c'est une orientation. Le Coran est le doigt vers lequel t'oriente et te dit regarde les cieux, regarde la terre, regarde les couches de géologique, regarde l'archéologie, cherche le savoir et tu vas l'acquérir et tu vas connaître ce que Dieu a créé. Et que finalement, la conclusion c'est quoi ? C'est de dire finalement qu'on est une poussière, que ça soit dans l'espace comme dans le temps, que si on parle de dinosaures qui ont 300 millions d'années, 400 millions d'années, des créatures qui ont vécu il y a des millions, des centaines de millions d'années, ça montre bien que nous, notre période historique n'est qu'une poussière dans tout ce temps-là. Et que même nos êtres, nos entités, c'est-à-dire notre volume que nous occupons dans cet espace n'est lui aussi qu'une poussière de poussière de microbes dans cet immense univers dans lequel nous venons découvrir à peine l'immensité. Donc ça montre bien que ce savoir-là a pour objet de nous rappeler la grandeur et la puissance de Dieu et en même temps de le découvrir à travers la grandeur de sa création. Que voilà, soyons humbles. Et que ceux qui pensent que le centre de l'univers c'est la Terre, eh ben ils se trompent. Celui qui pense que Dieu il y a 5000 ans, eh bien il a créé les cieux et la terre, c'est des bêtises. Le monde n'a pas 5500, je sais pas combien années comme certains le pensent dans d'autres religions. L'univers il a des millions, voire même des milliards d'années. La Terre elle a 4 milliards d'années. Le Soleil il en a je sais pas combien, il a 15 milliards d'années. L'univers lui-même, le Big Bang, il date de, il y a, je sais pas combien, 14 ou 15 milliards d'années. Donc ça montre bien que nous sommes une poussière dans tout ça et que on n'a pas à s'enorgueillir de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut avoir. Ça, à mon avis, le savoir, la quête du savoir, dans lequel je rappelle, le Coran n'est que le panneau vers lequel nous nous orientons. Il ne faut pas s'arrêter au panneau et dire le panneau, tiens, j'ai pris le panneau direction Paris, je suis à Paris. Mais non, mon frère, c'est pas parce que t'as pris le panneau Paris que t'es à Paris.
Alors vous êtes sûr qu'un enfant à qui vous répondez ça, il comprend ?
Bah, on lui explique que le Coran.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Parce
que
bah
là,
oui,
moi je suis pas sûr là.
Ah bah, écoute, je lui explique que le Coran, ouais. C'est 6226 versets, 6236 versets, et que toute la science ne peut pas être dedans. Dieu ne peut pas mettre tout le savoir de sa création dans un petit livre aussi petit que ça. Sinon, le Coran serait une immense encyclopédie. Est-ce que ça, il peut le comprendre, le gamin ? Que le Coran, je répète, n'est qu'un panneau qui te dit « Regarde vers la création. » Nous leur montrerons nos signes dans les cieux et dans eux-mêmes. Et sur la terre, et sur terre, nous avons des signes pour les gens qui ont la certitude. Le Coran n'est qu'un orientateur pour acquérir le savoir. Il n'est pas lui le savoir. Et bien sûr, il y a une part du savoir qui est très très importante. Le Coran lui-même dit que l'essentiel de ce que vous avez besoin pour adorer Dieu, il est dans le Coran quand il dit ma faratna fil kitab mishay, nous n'avons rien oublié d'expliquer à l'homme qui lui permettra de nous adorer, c'est-à-dire d'adorer Dieu. Donc l'homme a tout ce qu'il faut dans le Coran pour adorer Dieu, mais il n'a pas tout le savoir, l'immensité, ce qu'on appelle Rayb as-samawat l'ard, puisque Dieu lui-même il le dit, nul ne connaît la connaissance des cieux et de la terre si ce n'est Allah azza wa jalla. Qul la ya'lamu al-ghayb man fi as-samawati wa man fi al-ard illa Allah. Donc seul Dieu connaît le savoir des cieux et de la terre. Donc à partir de là, Dieu n'a pas décidé de tout nous informer, même de ses noms à lui. Le prophète nous raconte dans un hadith que quand il invoquait Dieu, il disait oh mon Dieu, nous t'implorons par le nom ou les noms. Ou le nom qui est à toi, avec lequel tu t'es nommé, que tu nous as transmis dans le livre, mais aussi le nom que tu nous as caché, que tu as décidé de ne pas nous dévoiler. Ou tu as révélé dans ton livre, ou tu as décidé de cacher, de garder dans la science cachée, dans le savoir caché que tu n'as pas encore dévoilé et laissé apparaître. Eh bien, nous t'implorons ceci, cela, etc. De faire en sorte que le Coran soit une source de gaieté et un printemps pour nos cœurs, un rabi' al-qulubina, etc. Donc ça, c'est le fameux hadith du prophète qui nous parle que nous ne pourrons jamais prétendre avoir la science absolue, le savoir total, et encore moins ne serait-ce que d'imaginer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la création, on n'a pas connaissance. Je dirais même, aujourd'hui on vient de découvrir que il y a quand même un moment qu'on le sait ça, c'est qu'on connaît moins la mer, les fonds de la mer que la lune. On connaît mieux la surface de la lune que les fonds marins, que notre propre planète. Qu'aujourd'hui il y a des créatures que chaque fois on découvre, c'est des nouvelles créatures qui sont recensées et que l'on découvre des fins fonds de la mer, ou voire même sur terre. Donc à partir de là, ça montre bien combien la capacité de l'homme à acquérir le savoir est limitée. Donc déjà, on ne sait même pas le présent, on ne sait même pas ce qu'il y a autour de nous. Tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 300 millions d'années, les dinosaures, le tyrannosaure ou le diplodocus ou je sais pas quoi, ou tous les noms d'animaux mais qui sont vrais.
Alors il y a le mammouth.
Le mammouth aussi.
Barbus.
Le mammouth, et il a vécu.
Qui a été
vécu à l'époque de
l'homme.
C'est même l'Homo sapiens.
Apollinus. Apollinus.
De Malherbus.
De Malherbus, qui était une grande exterminatrice de mammouth.
De mammouth, effectivement, avec
je vous pose la question parce qu'effectivement, il y a, chez les enfants, il y a cette fascination pour les dinosaures. Alors, c'est vraiment un objet.
Mais je crois que c'est l'éducation nationale.
Un objet de fascination.
Ça, c'est l'éducation nationale qui met beaucoup le paquet là-dessus, et c'est une erreur. Normalement, on devrait d'abord enseigner aux enfants qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation dans laquelle on vit? Qui est Voltaire? Qui sont les Montesquieu? Qui sont ces personnages de l'histoire qui ont fait de la France et le monde? Des personnages, ça c'est l'histoire qu'on devrait enseigner aux enfants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là où on en est? Mais en même temps avec un regard critique, dénoncer par exemple les colonisations, l'invasion de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, même l'esclavage, tout ça, on n'en parle pas assez. On parle trop de dinosaures, on oublie que les enfants, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est d'abord ce qui fait qu'aujourd'hui dans lequel... Ils sont là aujourd'hui dans un pays civilisé qui est la France, qui est l'héritage de nos ancêtres, qui est le fruit de tout ce passé-là. C'est cette histoire-là, je voudrais que les gens lisent, et non pas des trucs... à quoi ça sert, je veux dire, même à la rigueur, de rester des heures à dessiner des dinosaures, à montrer aux enfants
acheter des dinosaures, avoir des collections de dinosaures.
C'est incroyable, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a une obsession qui ne sert à rien.
Passion.
Pour moi, je pense qu'il y a là une volonté de détourner l'esprit des enfants vers quelque chose qui ne leur sert à rien, ou presque à rien.
En parlant de dinosaures, un des dinosaures de la radio sera là tout à l'heure, hein, puisque Maître Serran,
c'est sûr que c'est un spécimen
en voie d'apparition.
Non, je dirais plutôt qu'en voie de disparition, parce que quand il va partir,
il n'y en aura aucun qui
pourra l'égaler, qui aura le niveau de Maître Serran.
Donc c'est tout droit dans un instant au 01 53 48 3000. On vous retrouve la semaine prochaine. Votre numéro de téléphone, Imam Abdelali.
Oui, j'ai une superbe omra à proposer du 10 au 22 février. Du 10 au 22 février, pour ceux qui voudraient venir. Je répète, du 10 au 22 février, Médine et Mecca, avec moi. Je vous raconte pas le paysage, le temps, le climat. À cette période-là, il est magnifique à la Mecque et à Médine. Ceux qui veulent découvrir le berceau de l'islam, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Même si je ne réponds pas tout de suite, vous me laissez vos coordonnées ou voilà, vous me rappellerez. 06 29 25 3500, c'est aussi le numéro pour vos questions. J'y réponds volontiers dès que c'est possible, Inch'Allah. 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit.
Faut redire.
Non, ça ira.
06 29. Black Friday, il faut redire le numéro.
Ah, Black Friday. C'est vrai que là, c'est, on peut dire Black Friday. Parce qu'en plus, c'est un produit qui est pas cher.
J'aurais pas dû vous lancer.
Non, non, il est moins cher que d'habitude, c'est vrai.
C'est vrai. Ouais, ouais. Juste avant le mois de Ramadan.
2 000 € avec un hôtel 5 étoiles, c'est franchement intéressant. Après Noël,
c'est non, ça sera avant le Ramadan, juste un petit.
Oui, et ça sera surtout pendant les vacances d'hiver. C'est dans la zone C, du 10 au 22 février. 06 29 25 35 00. Bon. Voilà.
On attend. Maître Serhan, Imam Abdelali, on vous retrouve samedi prochain.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.